Je cède la parole à Gisèle Berkman. Si Gisèle. Ah, voilà. Gisèle, Christian Doumet et Gérard Massé, si vous voulez bien prendre place. Gisèle Berkman est vice-présidente du Collège international de philosophie. Sa pensée critique s'exerce sur le poème, dirais-je très généralement. Elle est membre du comité de rédaction de poésie, entre autres, et on lui doit l'année dernière un livre remarquable qui s'intitulait « L'effet Bartleby » chez Hermann. Et nous l'avions d'ailleurs invité aux enjeux pour parler de son livre. Voilà, merci Gisèle.
Merci. Je suis très heureuse de d'avoir à présenter Christian Doumet et Gérard Massé et d'avoir à conduire cet entretien entre eux qui va prendre certainement, peut-être que je m'avance, des chemins vagabonds. Parce que, en regardant les titres de Christian Doumet et de Gérard Massé, en lisant rien que les titres de leurs ouvrages, on a déjà une idée de l'allure vagabonde de leur poésie et de leur pensée. Des titres dont je vais donner un petit aperçu. Hein. Christian Doumet, Trois huttes. Gérard Massé, Pensée simple. Christian Doumet, De l'art et du bienfait de ne pas dormir. Gérard Massé, Colportage, 1, 2 et 3. Christian Doumet, Japon vu de dos. Gérard Massé, Un monde qui ressemble au monde, Les jardins de Kyoto. Ou encore, Christian Doumet, Poète, villes et confins. Gérard Massé, L'art sans parole. Ce que j'ai trouvé très intéressant en vous lisant et en vous relisant tous les deux, c'est que j'ai rencontré dans vos deux écritures différentes, hein, l'écriture de poètes qui ne sont pas que poètes, qui mettent en jeu un autre mode d'écriture, ce que j'appellerais une forme d'écriture vagabonde, pensive, et chacun d'entre vous, vous explorez territoire du connaître, ce rapport au savoir dont Yves Boudier nous parlait précédemment. Mais il me semble que vous explorez aussi une forme de non-savoir, c'est-à-dire que ni l'un ni l'autre, vous n'avez de prétention théorique, ou plutôt, je vais être plus précise, vous méfiez chacun à votre façon de l'appareil lourd de la théorie quand il vient geler ses objets. Et en même temps, je suis frappée par le fait que, et l'un et l'autre, de façon différente, eh bien, vous mettez en scène une forme de, on pourrait parler de gai savoir, dans vos libres écritures pensives. Je pense à une expression de Christian Doumet qui parle de l'allant fantasque de la déambulation au sujet de William Sorrow, qu'il rapproche à ce moment-là de Schumann, de l'allure comme ça à sauce et à gambade de certains morceaux de Schumann. Et puis je pense au colportage de Gérard Massé, à sa quête sans trêve au milieu des signes, des emblèmes, des hiéroglyphes, des images. Tous les deux, vous êtes des quêteurs et des chercheurs. Et la première question que je vous poserai à l'un et à l'autre, c'est justement celle-ci. J'ai l'impression que votre démarche essaye de repousser les limites de la poésie, ou plutôt de décloisonner les limites entre la poésie et le savoir. Est-ce que vous seriez d'accord pour parler d'une démarche pensive ? C'est vraiment comme
bon, je veux bien commencer
de l'âge.
À rebours de ce que je viens de dire, je vais commencer alors. Je trouve que tout ce qui a été dit par Yves Boudier et par vous là, à l'instant, je trouve ça vraiment très juste et je n'ai rien à reprendre, sinon à prolonger, à commenter un peu plus. Et je le fais bien volontiers. En particulier, quand vous parlez de décloisonnement ou d'agrandissement, en quelque sorte, du territoire poétique, je voudrais préciser quelque chose que je fais chaque fois que j'ai l'occasion. On pourrait y voir un effet de la modernité. Ce serait trop facile à mon sens, parce que, pour ma part en tout cas, tous les poètes que j'aime dans l'histoire de la poésie ont toujours fait autre chose que des poèmes, ont toujours écrit autre chose. De Dante jusqu'à Francis Ponge ou Henri Michaux, pour citer des contemporains récents, et en passant par Coleridge ou Mandelstam, c'est la vérité même. C'est-à-dire que Dante est un grand linguiste, ses essais en témoignent. Mandelstam s'intéresse à la minéralogie et à tant d'autres choses. Baudelaire, c'est quelqu'un qui a écrit sur l'esthétique, tout le monde le sait, mais c'est déjà une forme de pensée qui va jusqu'à la sociologie et l'anthropologie. Il n'est pas seulement question d'art dans les salons ou dans les écrits esthétiques, etc., etc. Et donc, il y a toujours eu, toujours dans la grande tradition poétique, une forme, en effet, de pensée. D'abord parce que tout le monde pense. Ce n'est pas très original, alors on ne voit pas très bien pourquoi les poètes en seraient dispensés. Et d'autre part, c'est vrai qu'il y a une forme de pensée ou une visée qui n'est pas celle de la théorie, qui n'est pas celle conceptuelle d'une certaine tradition philosophique. Je dis d'une certaine tradition philosophique parce que toute la philosophie ne se ramène pas au concept. Donc il y a, à l'évidence, quelque chose de l'ordre de l'analogie plus que du discours, encore que Jacques Reda, qui interviendra demain, a écrit un livre récent dans lequel il y a discours dans le titre. Bon. Il y a peu de narration, mais c'est l'effet du XXe siècle, parce que jusqu'à la chanson du mal-aimé, la poésie est narrative. Donc on pourrait dire qu'elle a tout embrassé. Au XXe siècle, elle a plutôt restreint son domaine qu'elle ne l'a agrandi, à mes yeux. Donc vous voyez, je vais presque, c'est pas le goût du paradoxe, mais je vais presque à rebours de ce que vous affirmiez.
Voilà. Si je puis me permettre, en fait, j'ai été trop rapide, trop évasive.
Non, mais c'est pas un reproche. Hein.
Oui. Non, ce que je voulais dire, mais j'ai été trop rapide, c'est qu'il me semble parfois qu'on est aujourd'hui dans une sorte de recloisonnement des territoires. C'est ça que je voulais dire. Voilà ce que j'aurais dû préciser. Oui, on est d'accord. Dans un recloisonnement des disciplines, des frontières. Ce que j'aime dans vos deux pratiques, c'est que, d'une part, elles me font penser souvent l'un et l'autre aux romantiques allemands, et au-delà.
Peut-être, volontiers.
Et j'aime cette façon, tout simplement, de décloisonner là où l'esprit du temps, d'une façon ou d'une autre, va vers une refermeture des frontières, qu'elles soient génériques ou autres. Voilà ce que je voulais dire.
Vous pourriez ajouter les Japonais. Je pense à Bachot qui a écrit de merveilleux récits de voyage et des carnets, n'est-ce pas, en même temps que les haïkus si célèbres et si malaisés à traduire. Donc il y a là quelque chose qui est une grande tradition, à mon avis, depuis toujours, qui est, c'est pourquoi on en parle sans doute là, qui est de plus en plus mal aperçue. Je pense que l'une des causes, c'est le triomphe du roman, en particulier dans les médias, qui fait que la littérature se ramène quasiment au romanesque. C'est le cas de la France, mais ne croyons pas que c'est universel. Par exemple, il m'est arrivé d'aller en Iran et même à l'université il n'y a pas si longtemps, 3-4 ans, enfin juste avant les élections, au résultat connu et funeste à la fois, puisque le résultat a été bafoué. On était très, très étonnés qu'on parle tant de romans. Il y avait des étudiants là tout à fait informés. Et pour eux, et en Iran en général, la grande passion, c'est la poésie, aujourd'hui encore. J'ai vu un ami camerounais à Paris en octobre, qui était là en pleine rentrée littéraire, si j'ose dire, et passionné par l'actualité et cherchant à s'informer pendant qu'il était là. Et il est venu me voir un soir, il m'a dit « Mais je ne comprends pas ce qui arrive à la France. Pourquoi on ne parle plus que du roman ?» Vous voyez ? Donc là, il y a un effet grossissant auquel il faut prêter attention aussi. Je crois que c'est à cause de cela que ce dont nous parlons est de plus en plus mal aperçu. Alors continuons d'en parler. Mais...
Et vous, Christian, est-ce que vous êtes d'accord avec cette façon peut-être rapide dont j'ai essayé de qualifier vos deux œuvres ?
Oui, je ne trouve rien à redire. Malheureusement, je n'ai rien à redire à tout ce que vous venez de dire.
Ça ne nourrit pas la discussion.
L'un et l'autre, on pourrait presque s'arrêter là. Simplement, comme Gérard, je ne fais que prolonger, que commenter. Sur ce mot de poésie, un mot à dire, il me semble massif, mais tout de même, j'entends beaucoup de phrases qui commencent par « la poésie fait », »,« la poésie est », »,« la poésie », etc. Bon. Et chaque fois, je me demande de quoi parle-t-on quand on nomme cette chose qu'on appelle la poésie, notamment dans les discours qui, avec évidemment toute la tendresse, la candeur, l'innocence et la saveur que savent avoir les poètes, mais enfin, sont des discours au fond polémiques pour nous dire « la poésie est en train de mourir, faites quelque chose ». Appel au secours, en somme. Mais malheureusement, on ne sait pas très bien ce que c'est que la poésie. Personne n'est d'accord là-dessus, et surtout pas les poètes entre eux. Les polémiques sont un peu retombées aujourd'hui, mais enfin, on a quand même connu dans ce pays, il y a une vingtaine d'années, des moments où il arrivait que les poètes s'insultassent mutuellement. Et au fond, c'est pas si mal que ça. Ça veut dire qu'il y a des... Il y a de véritables enjeux personnels, évidemment. Mais comme on ne sait pas ce que c'est, évidemment, on a intérêt à dire qu'elle est en train de mourir pour lui donner une existence, au fond, d'une certaine manière. Or, il me semble que, et ça rejoint tout à fait ce que disait Gérard à l'instant, il me semble que la poésie, dans beaucoup d'endroits, j'évite d'utiliser ce mot, tout ce que je sais, c'est qu'il y a des poèmes, et je dirais, il y a des moments de lecteurs qui sont des moments de poèmes. C'est tout ce que je peux dire. Et ces moments sont loin d'être cantonnés, évidemment, à la lecture des recueils de poèmes ou des poèmes qu'on peut lire dans les revues. C'est le premier point. Le deuxième, je réagis à ce que disait à l'instant Gisèle à propos de penser et savoir. Il me semble que, d'abord, il ne faut pas confondre les deux, tout de même. Ce n'est pas parce qu'on sait qu'on pense, et ce n'est pas parce qu'on pense qu'on sait. Bon, c'est une évidence même qu'il faut rappeler de temps en temps. Et moi, le point qui me paraît important à la jonction des deux, c'est le comprendre. Ou plutôt, la difficulté du comprendre. C'est-à-dire le fait que, dans l'expérience poétique notamment, enfin, en tout cas, ce qui m'apparaît comme vraiment... d'ordre essentiel dans l'expérience poétique, ce qui se vit, c'est l'incompréhension plutôt. C'est plutôt de cet ordre-là. C'est-à-dire le fait que, quand on dit « je comprends », on veut dire qu'on a compris une toute petite parcelle, mais sur un immense fond d'incompréhensible. Au fond, ce qui est intéressant, c'est l'incompréhensible, c'est pas le fait de comprendre. Alors quand on tourne autour de ces questions du penser et du savoir, je crois qu'il faut toujours rappeler au fond... Cette chose qui me paraît essentielle, la jouissance de l'incompréhensible. Le fait qu'il y a un véritable bonheur à ne pas comprendre. Et il faut bien qu'il y ait un bonheur puisque nous passons notre temps à ça. Et que le poème, au fond, si j'avais à réduire une fonction du poème à son essence même, je pense que c'est ça, c'est-à-dire nous faire chaque fois toucher, nous rappeler... ce que nous ne comprenons pas et qui est un des bonheurs de vivre.
Oui, je trouve ça très...
D'autant que Gérard n'est pas d'accord.
Si, absolument. Je trouve ça d'autant plus juste qu'on aura du mal à se disputer violemment, je crois. Non, et faire semblant serait un numéro pénible. Donc, je suis tout à fait d'accord. Et justement, ça me permet de rappeler que le poème, c'est aussi un état d'esprit. C'est-à-dire que... On plonge son esprit, son univers mental, dans quelque chose, en effet, de plus inconnu, de plus flou, au moins au départ, que lorsqu'on écrit d'une autre manière. C'est-à-dire qu'on lâche prise, l'intention n'est pas le principal. Alors que dans d'autres écrits, c'est l'intention qui prime. Puis après, on exécute. Plus ou moins, c'est une question d'accent. C'est jamais aussi schématique que cela, la différence. Enfin, c'est une question de dose ou d'accent. Bien. Dans le poème, enfin pour ma part en tout cas, il y a l'acceptation de quelque chose qui doit venir, pas tout seul, c'est pas la visite du Saint-Esprit, et je n'ai pas pour ma part la mystique de ce qui serait hors du langage et qui serait supérieur au langage, pas du tout. Mais tout de même, il y a quelque chose qui vient, qui s'impose, sans que je sache pourquoi et comment, sans que je le sache tout à fait. Et qui s'impose aussi, plus que dans d'autres formes du discours, qui s'impose musicalement. Ça, c'est très important aussi, ce qui explique la jouissance dont parlait Christian à l'instant. Et quand je dis musicalement, ce n'est pas forcément le violoncelle, enfin, ce n'est pas forcément la musique académique. Chez Michaud, ce serait plutôt le tam-tam. Bon, mais il n'empêche qu'il y a un rythme, voilà, et qu'il y a quelque chose là dont on accepte que cela nous échappe. Ensuite, je vois bien que la poésie contemporaine, enfin celle du XXe siècle plutôt, a de temps en temps appuyé un peu fort sur la chanterelle de l'hermétisme, de telle sorte qu'on a renversé la vapeur, il suffirait qu'un texte soit abscon pour qu'il soit poétique. Ça, sûrement pas. Le mystère dans les lettres, tel qu'en parle Mallarmé, oui. L'hermétisme voulu, non. Parce que c'est une forme ou de snobisme ou de coquetterie ou de je ne sais quoi. Bon. Mais il n'empêche qu'il y a ce lâcher-prise dont je parlais à l'instant. Et j'ajouterais pour terminer ce petit chapitre autre chose, c'est que, en tout cas pour ce qui me concerne, j'écris beaucoup dans ma tête, comme disent les enfants, c'est-à-dire voilà, mentalement, pas en voulant apprendre par cœur, mais parce que cela s'impose, là, je mémorise ce que je suis en train d'élaborer. Et plus encore, dans le poème, quand ça prend la forme du poème, hein, plus encore dans le poème que dans le reste. Et à tel point que quand je me mets au clavier, je parle de l'ordinateur, pas de l'orgue ni du piano, quand je me mets au clavier, c'est déjà fait. Voilà. Alors après, on peut toujours bouger un adjectif, déplacer une virgule, ça c'est un travail d'artisan qu'on ne va pas se refuser, mais c'est déjà là. C'est déjà là, et tu parlais de jouissance, je parlerai de volupté à retenir ce que j'ai élaboré parce que je vis avec. Une fois que c'est lâché sur la page, c'est terminé, c'est mort. Et d'ailleurs, je ne le sais plus. C'est-à-dire que j'écris pour oublier, sans paradoxe exagéré.
Mais au fond, c'est ça que j'appelais la pensivité. Quand je disais pensivité, je pensais justement à la façon dont certaines écritures, les vôtres, à tous deux, se tiennent d'une façon indécidable entre la sensation, quelque chose qui relève du corps, pour le dire très vite et pour utiliser très vite un mot dont trop galvaudé, quelque chose qui sortirait du corps ou d'un corps obscur qui nous connaît plus qu'on le connaît et qui se cherche vers sa formulation. Et c'est intéressant de vous avoir entendu, Gérard Massé, vous qui êtes photographe, utiliser les images du clavier, alors qu'au fond, Christian, si je ne me trompe, est pianiste. Et je trouvais ça intéressant de voir comment chacun d'entre vous, vous utilisez des images différentes.
J'aurais pu parler de la chambre noire, mais je suis passé au numérique. Donc, donc ça change tout. On est passé de la caverne de Platon au voile de Véronique,
oui,
n'est-ce pas ?
Tout à fait. Voilà. Oui, mais ça, vous en parlez effectivement dans l'un de vos, dans l'un de vos textes.
Et... Ah, ben, je ne croyais pas que vous m'aviez si bien lu.
Si. Et Christian, dans La poésie au marteau, parle justement d'une désorientation, la façon dont on s'oriente pour se désorienter, la façon dont le poème se remet à ce que vous appelez le pas de sens, qui n'est pas l'insensé.
Oui, oui. Moi, une chose qui me frappe beaucoup quand j'entends les interviews des écrivains, c'est-à-dire, comprenez les romanciers, hein, toujours, bien sûr, il faut toujours faire cette transposition aujourd'hui. Les écrivains donc, qu'on interviewe à la radio, et ils répondent, voilà ce que j'ai voulu dire. Alors ça, pour moi, c'est typique d'une attitude qui, évidemment, tout de suite rate la poésie. D'abord, rate probablement aussi le roman, si je peux aller jusque-là, parce qu'on a envie de répondre, mais si vous avez voulu le dire, il fallait le dire. C'est pas la peine de d'écrire 200 pages là-dessus. Et précisément, une chose qui m'attache au poète que je lis et à l'écriture, c'est précisément l'inverse, c'est-à-dire ne rien avoir à dire. Rien ne me frappe plus que cette entrée du journal de Kafka. Entrée récurrente d'ailleurs, rien à dire. Bon, c'est Kafka. Il faut quand même méditer ça, je veux dire, rien à dire ou les variantes de cette formule-là qui sont toujours pas pu écrire, rien à écrire. Bon. Et ce qui est frappant là-dedans, c'est que sans cesse Kafka voit l'écrire comme une jouissance infinie et qu'en même temps, il ne peut pas y accéder. Donc ça, c'est une des manières, il me semble, juste d'envisager la question dont on essaie de parler ici, à laquelle on donne le nom de poésie, mais qui probablement devrait déborder le cadre strict du genre, en réalité. Enfin, on touche à des choses qui vont beaucoup plus loin, qui vont d'ailleurs sans doute beaucoup plus loin que l'écriture elle-même. Je pense que dans la musique, c'est exactement la même chose. Enfin, est-ce que vous croyez que Debussy avait quelque chose à dire quand il a commencé les premières lignes de Péléas ? Moi, je suis persuadé que non, il ne savait pas quoi dire.
Oui. Et en même temps, vous êtes tous les deux, si je puis dire, deux têtes chercheuses. C'est-à-dire que, quand je dis têtes chercheuses, je pense à cette allure, cet allant, quand je vous lis. Je perçois d'abord les textes en termes de mouvement, en termes d'allure, en termes d'aller. J'aime ce mouvement qui est une sorte de libre mouvement, et en même temps, un mouvement qui interroge quelque chose, que ce soit chez Christian, autour de l'art et du bienfait de ne pas dormir, au fond, cette espèce de pensée obstinée qui rôde dans l'insomnie, que ce soit chez Gérard Massé, une sorte d'ethnographie sauvage au cours de sa quête de colportage. C'est-à-dire que, oui, nous sommes d'accord, il y a le pas de sens du poème et de la poésie, bordé sans doute par cette tyrannie de la prose narrative qui aurait quelque chose à fictionner, à raconter. Et en même temps, tous deux, vous ne cessez de chercher quelque chose qui se dérobe, mais il y a bien une collecte d'impressions, quelque chose d'inlassable qui creuse, qui fort.
Mais j'avais l'air de condamner le roman tout à l'heure. Non, c'est parce que sa présence est envahissante, c'est tout. Mais pour ma part, je ne refuserais pas, par exemple, la narration de l'enquête et de l'essai. Il y a de la narration, oui. Par exemple, y compris dans la recherche de l'interprétation. Il me semble que la différence entre le romancier et l'essayiste, quelquefois, tient à ceci, il y en a bien d'autres, mais tient à ceci, c'est que le romancier n'est pas tenu de citer ses sources, mais lui aussi charrie un savoir la plupart du temps. Enfin bon. Et l'essayiste est quelqu'un qui a des scrupules. Starobinski dit que la citation est l'indice de la mélancolie, c'est-à-dire écrire par en dessous, en quelque sorte. Mais c'est l'exposition d'un scrupule que n'a pas le romancier, qui se donne des allures plus franches. Cependant, il y a une même incertitude dans la recherche d'une interprétation ou dans la rencontre d'un savoir. Enfin, moi, je n'aime rien tant, mais ça, c'est une façon d'être au monde, c'est pas seulement une façon d'écrire. Je n'aime rien tant que ce que je ne sais pas qui doit arriver, enfin, bon, dans 3 mois, 6 mois ou 2 ans, pas dans 50, je ne serai plus là. Cueillir, enfin accepter la surprise, et la surprise même de l'ordre du savoir, rien ne me passionne tant. Du savoir, à condition, c'est pas le savoir pour le savoir, à condition qu'il mûrisse, qu'il se transforme, qu'il se métamorphose, et qu'il... enfin, c'est l'histoire du caillou et de l'huître, et à condition que je puisse en faire des perles, si j'en suis capable, voilà. Par exemple, peut-être en étant plus précis, plus concret, ce sera plus clair. Je reviens de passer un mois au Cameroun et j'y étais aussi en novembre. Pourquoi ? Je parlais d'un ami camerounais tout à l'heure qui m'a appris fin octobre qu'un roi, c'est-à-dire un chef coutumier, mais le plus important de l'Ouest camerounais, venait de mourir. J'étais déjà allé une fois dans cette région et ça me trottait dans la tête, j'avais envie d'y retourner. J'ai saisi cette occasion pour prendre un billet d'avion et pour aller aux obsèques du défunt. À partir de là, j'y suis retourné, j'y viens d'y passer le mois de janvier, pour assister aux différentes phases du rite de succession, et puis pour voir les sorties d'initiés, enfin 3 fois. Bon. C'est une démarche qu'on pourrait qualifier d'ethnographique. Dans mon cas, elle ne l'est pas. Elle ne l'est pas parce que je crois qu'il y a eu un temps de l'ethnographie qui est peut-être un peu bouclé, une position de l'ethnographe qui est en surplomb, que je ne souhaite pas épouser, outre que je n'ai pas les compétences d'un ethnographe, mais que je ne souhaite pas épouser, c'est-à-dire que je n'ai aucune envie d'expliquer aux gens, qui par ailleurs ont des portables, des mobilettes et tout ce qu'on veut, qui ils sont et dans quel système symbolique ils seraient pris à leur insu. Ouais. Bon, ça c'est peut-être la mauvaise ethnographie, mais enfin, on a vu quelques exemples. Donc il ne s'agit pas de ça, il s'agit de quoi ? D'une démarche d'écrivain, je peux bien aller à Venise aussi, Mais comme je dis quelquefois, quand je demande à Venise, on me demande quand. Quand je vais en Grèce, on me demande où. Et quand je vais en Afrique, on me demande pourquoi. Bon, parce que le voyage en Afrique est moins évident ou moins accepté. Bon, tout ça pour dire que je commence à écrire, et je commence à écrire dans une démarche qui est celle de quelqu'un qui est informé, qui a vu des choses, qui a photographié aussi, oui. Et l'image sera nécessaire dans ce livre s'il aboutit, mais il n'empêche qu'il y a une démarche qui est d'ordre poétique, je l'espère, oui, d'ordre en tout cas littéraire, c'est-à-dire que je m'autorise, mais je m'autorise à partir d'une information et d'une expérience. Voilà.
Je rebondis à la question, oui. Enfin, si vous permettez, à la question de, ou à l'expression plus exactement, de tête chercheuse, qui est, oui, qui est une question intéressante, enfin, une espèce de, tout de même difficile à porter. Hein.
Qu'est-ce ça fait de nous des
bon, qu'on soit des têtes, c'est probable, mais chercheuse, alors qu'est-ce qu'on cherche? Je me suis souvent demandé ce que c'était que cette attitude qui consiste à, comme vient de le décrire Gérard, à aller dans un lieu pour écrire.
Je n'étais pas sur place, c'était très
rare. Oui,
très très rare.
Mais enfin, quand même, dans un projet
faut
général.
Que je reviens. Hein, oui.
Dans un projet général. Bon, on a tous les deux fait l'expérience du Japon un peu dans cette, je crois, dans cette, dans cet esprit-là. Et ça me renvoie toujours à l'impression que le monde est à compléter, si immodeste que soit cette position, que le monde est à compléter, c'est-à-dire qu'on n'est pas tout à fait au monde, quoi. On n'est pas dans un monde qui est fini, qui est comblé, qui est satisfaisant, dans lequel on est bien. Tu parlais de mélancolie à l'instant, Gérard, je crois qu'il y a quand même un fond de ça dans toutes les activités que nous menons, et pas seulement nous, les uns et les autres ici probablement, c'est-à-dire un fond d'incertitude et d'insatisfaction. Et l'entreprise, enfin, telle que vous la décriviez à l'instant, Gisèle, ça me paraît assez juste, c'est-à-dire on cherche à donner une sorte de finitude à quelque chose qui nous est livré, qui nous est proposé dans une salle infinitude, dans tous les sens que ça peut avoir. On essaye de compléter la chose. Et on se rend bien compte qu'on n'y arrive pas, mais l'effet, c'est qu'il y a dans cette percée vers un peu plus de complétude, il y a des créations de mondes tout de même. On fabrique des petits mondes, hein, à notre mesure, hein, c'est minuscule souvent, c'est très peu de choses. Ou bien on rend compte de mondes plus vastes, comme ceux dont tu parlais à l'instant.
Mais il n'est pas plus vaste, Christian.
Mais voilà, c'est ça, que ce soit minuscule ou vaste.
C'est un monde tout à fait circonscrit, simplement il est plus étranger
c'est
que,
pas une question de
que
taille,
le bois de Boulogne. Ou...
Voilà, c'est ça. Ah. Hein, comme dit Reda, bon, j'ai pas besoin de voyager très loin, je vais en banlieue, ça me suffit. Et puis, visitant la banlieue.
Mais lui aussi, il va plus loin.
Oui, mais il peut écrire des choses absolument parfaites, cosmiques, sur un terrain de banlieue. Et au fond, c'est un peu toujours ça qu'on fait.
Mais justement, en vous écoutant, Christian, je pense d'une part que vous êtes au contact. Vous vous mettez ou vous êtes au contact de peinture, de musique, de choses éventuellement éloignées ou proches que vous percevez. Je pense à ce que vous dites sur Patinir, que j'aime beaucoup, dans 3 huttes. Vous évoquez cette attention buissonnière, qui est une forme supérieure d'intelligence avec le monde, dans le fait de regarder la peinture. Et Gérard, vous parliez du Japon. Et ce qui est drôle, c'est que vous avez tous les deux, finalement, votre Japon, ou votre expérience du Japon, puisque vous avez... fait des photos de Kyoto, vous en parlez. Christian Doumet a écrit le Japon vu de dos chez Fata Morgana. Et au fond, la désorientation, elle peut venir du proche ou du lointain, mais l'écriture, elle naît de ce contact avec quelque chose de singulier, avec cet est que vous cherchez tous les deux.
Oui, qui redevient familier.
Et qui redevient familier.
C'est-à-dire qu'on se réapproprie. Là aussi, je vais donner un exemple, parce que sinon, je crois que c'est trop peu parlant. Puis je ne sais faire que ça. Enfin, c'est ma façon de réfléchir. J'ai été très, très marqué, entre autres, par une enfance où la forêt a beaucoup compté. J'avais un grand-père bûcheron, une grand-mère illettrée, ça a beaucoup compté aussi dans ma sensibilité. Bon. Et c'était, les deux, c'était un couple. Bon. C'était du même côté maternel. Et cette forêt, donc, est devenue pour moi un lieu à la fois réel et imaginaire, enfin un lieu fantasmatique aussi, que je retrouve un petit peu partout, bon. Et même sans le savoir. Il se trouve que dans les chefferies camerounaises, il y en a 102, et j'en ai visité quand même une trentaine, il y a toujours un même dispositif, un même urbanisme, on pourrait dire, et chaque chefferie est en contrebas au lieu d'être au sommet, ça c'est très étonnant, et au bord d'une forêt. Il y a toujours un bois sacré, qui est le bois des ancêtres, qui est impénétrable, et ça je n'ai pas eu le droit d'y aller. Et il y a donc toujours une forêt, et tout à coup, sur le chemin du retour, je me suis dit, ah ben ça y est, encore une fois, voilà. J'ai retrouvé là quelque chose qui est très profond chez moi et qui m'a parlé sans que je le sache. Alors, l'effet poétique, je crois que c'est ça aussi. C'est-à-dire se retrouver à son insu. Voilà. Mais l'enfant prodigue est à la poussière du chemin. Nous, on a un peu de poussière, mais on a quelques pensées en plus aussi. Voilà. Vous voyez, c'est...
C'est frappant ce que vous dites, parce que je pense à votre livre « Un monde qui ressemble au monde ». Et la façon dont ça commence, qui en fait a fait émerger chez moi un souvenir que j'avais oublié, c'est-à-dire
tant mieux.
Vous évoquez ce qu'on appelait les jardins japonais, et en fait ça fait revenir.
Qui ont complètement disparu, d'ailleurs. C'était chez les fleuristes dans
voilà.
Les maisons, mais vous êtes beaucoup trop jeune pour avoir connu ça.
Vous êtes gentil.
Non, c'est pas gentil. C'est
non, j'ai la certitude d'avoir vu les fameux jardins japonais qu'on ne voit plus.
Oui.
Et donc vous évoquez justement, ça commence par la table à ouvrage de votre mère et par ce jardin japonais, et au fond c'est un peu le système d'ailleurs des fleurs japonaises, enfin des comment dire, pas des fleurs japonaises mais du
des fleurs proustiennes,
voilà, des fleurs proustiennes,
bien sûr,
c'est-à-dire qu'on
mais
a
à mon échelle, parce que Proust ça va, il y a une ampleur,
on a l'impression,
à laquelle je ne prétends pas.
Oui, mais vous faites bien sentir le chemin de l'allée, du détour et du retour. On a l'impression que tout est sorti, ou vous réalisez que tout est sorti en quelque sorte d'une vision, d'un contact, d'enfance.
C'est à partir du moment où j'ai trouvé ça, d'ailleurs, que j'ai pu écrire cette première page et le reste. Et c'était la troisième fois que je séjournais au Japon un peu longuement. Mais les deux autres fois, je n'avais pas, j'avais pas éprouvé ça. J'aime aussi, peut-être que ça a quelque chose à voir avec ce qu'on appelle le poétique. J'aime les univers qui sont un peu clos, le monde qui a pris une forme à un certain moment et à un certain endroit, mais sans autarcie. C'est-à-dire quelque chose qui n'est pas clos sur soi. C'est sans doute pour ça que j'ai écrit sur la Rome baroque, par exemple, ou les jardins japonais, ou maintenant les chefferies Bamileke. Il y a toujours quelque chose d'un peu semblable, et qui du coup rejoint l'universel. Et à travers des exemples précis. Mais j'ai trouvé récemment une citation de Bachelard où il dit, je ne le sais pas par cœur, mais où il dit que justement, en travaillant sur de petites unités, il parle des sciences là, et précise, c'est comme ça que, qu'on comprend le monde, voilà, qu'on comprend mieux. Alors que dans un discours d'abord général, on rate beaucoup de choses. Eh bien, il me semble que la poésie épouse précisément cette démarche que Bachelard recommande pour les sciences.
Alors, il me semble que, Christian, vous ne pouvez que vous sentir proche d'une certaine façon, parce que vous parlez à plusieurs reprises du fait que, je suis tout à fait d'accord avec vous, le poème, pour ne pas rentrer dans cette généralité creuse de la poésie, dont tout le monde parle et dont personne ne sait ce que c'est, au fond, le poème, dans cette expérience d'approche et d'approche d'une forme qui se dérobe et puis qui prend... la poésie, c'est une approche et c'est une expérience de ce que vous appelez l'absolu singulier. Est-ce que vous feriez un parallèle, un rapprochement entre ce que Gérard Massé vient de dire au sujet de Bachelard ?
Oui, tout à fait. Je trouve très étonnant que Gérard, tu évoques la forêt tout à coup, comme ça. C'est une chose à laquelle je pensais un peu en venant ici aujourd'hui. Parce que j'ai réalisé il y a peu de temps que c'était un motif très très transversal dans beaucoup de choses que j'ai approchées, que j'ai essayé de toucher, que ce soit le cerf, le traité de Makoni de cerf, que ce soit certains textes sur le Japon, que ce soit Walden de Thoreau, et que ce soit du côté musical, un certain intérêt que je porte à Schumann et à Brahms, qui sont des compositeurs de la forêt. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Je crois que la forêt, c'est beaucoup plus qu'un objet de métaphore. Je suis presque persuadé que c'est une expérience profonde, au sens où Bachelard l'entend, une expérience structurante de notre perception et de notre intelligence. Et pour une raison très simple, c'est que c'est l'archétype même de l'enfermement, de l'égarement et de la reconnaissance possible. C'est-à-dire que dans la forêt, nous sommes premièrement protégés du monde ouvert, bien sûr, dans les contes, enfin les mythes et les contes disent ça tout le temps, nous sommes protégés du monde ouvert, donc c'est un lieu maternel, maternant, etc. C'est un lieu d'égarement aussi, car nous n'y sommes jamais au bout du chemin. Et puis c'est un lieu de reconnaissance, parce que comme le dit Gérard à l'instant, et ça aussi je suis pleinement en accord avec ça, l'expérience essentielle, au fond, ou plutôt l'expérience illuminante, par moment, et ça n'est pas donné à tous les instants, mais c'est probablement celle qu'on cherche, c'est à se situer le plus loin possible de soi pour se reconnaître tout à coup. Je veux dire que c'est en s'éloignant le plus possible de son savoir, de sa pensée, de sa connaissance, de son lieu d'origine, de sa communauté, etc., etc. Et là, à ce point-là de la forêt, retrouver la maison natale. Je crois que ça, c'est une des expériences qui explique beaucoup de choses de nos activités esthétiques, je dirais, et puis probablement pas seulement.
De la selva oscura de Dante au petit pousset, oui. Tout à coup, me venait aussi quelque chose. C'est que ce qui distingue le poème, qui existe tout de même par rapport à la poésie diffuse dans d'autres textes, on ne peut pas dire que c'est exactement la même chose. Alors, qu'est-ce qui fait que j'ai envie d'écrire un poème plutôt qu'un texte d'une autre nature, qui lui-même peut être poétique, ce qui est un peu différent. Je crois que c'est là où précisément la partie information, la partie savoir qu'on doit communiquer dans un texte pour qu'il soit accessible aux autres, surtout quand on parle d'univers lointain et un peu radicalement étranger, elle est moins présente. Voilà. C'est-à-dire que si je veux écrire quelque chose qui contient pas mal d'informations, alors là j'utiliserai ce que je pourrais appeler la prose courante. Voilà. Quand j'écris le poème, il me semble qu'il y a des mots qui teintent, qui se mettent à teinter, quelque chose qui est une sorte de verre, et qui entraîne le reste. Mais il faut qu'il y ait là aussi une part d'inconnu, bien entendu. Et de ce point de vue, la figure que je trouve peut-être la plus importante ou la plus parlante, je parle de, c'est pas tout à fait une figure, c'est l'enjambement. Pourquoi ? Parce que l'enjambement, c'est ce qui va aller plus loin que le bout de la ligne. C'est ce qui va rebondir, vous voyez, et qui n'épouse pas forcément la division syntaxique. Et donc qui sort de l'ordre discursif. Et cet enjambement, c'est au sens propre une façon d'aller plus loin, une façon de surmonter ce qui devrait s'arrêter à un certain moment et de continuer. Et en même temps, cela indique cette espèce de poursuite infinie entre le son et le sens. Voilà. Alors que dans la prose dont je parlais précédemment, il y a une adéquation un peu plus grande, un peu plus étroite entre le son et le sens. Enfin, j'espère que ce n'est pas confus.
Oui, non, je réagis aussi à ce que dit Gérard. Ce que tu dis confirme l'idée qui me paraît résoudre un peu les problèmes qu'on posait à l'instant à propos de la poésie, c'est que la distinction n'est pas entre le roman et la poésie, la distinction elle est entre la prose et le vers. C'est ça qui fait la différence. Et le XXe siècle a beau être passé par là, le vers reste ce qu'il est, pourvu qu'on l'entende, comme tu viens de le dire, c'est-à-dire comme une sorte de maître qui offre la possibilité du débordement. C'est ça l'intérêt. C'est ça l'intérêt. C'est pas de faire des vers mesurés. Le maître est une chose, le vers en est une autre. Et le vers, c'est ce qui nous permet, enfin, vieux texte de Hölderlin là-dessus, définitif à mon avis, à propos de l'enjambement précisément, c'est ce qui permet d'aller au-delà et donc qui permet d'inventer des mondes. On en revient à cette. Ou des formes, ou des
Il y a une belle page de George Agamben sur la question dans un livre que j'ai traduit.
Alors, oui,
donc,
sûr, oui.
Donc c'est une page que je connais. C'est dans un livre qui s'appelle Idée de la prose.
Idée de la prose.
Voilà. Et qui se réclame de Hölderlin d'ailleurs. Il y a autre chose dans le poème, me semble-t-il, puisque je parlais d'intention moins affirmée, etc. C'est une sorte d'attention flottante, pour reprendre l'expression que je trouve assez belle des psychanalystes. Et c'est ainsi qu'il m'est arrivé plusieurs fois d'écrire un poème, vraiment, au cinéma. Parce que, alors là, j'abandonne un peu le film, ou je l'interprète à ma façon,
Enfin,
Non, même les bons. Les bons. Et on ne s'aperçoit pas forcément de la source, mais il m'est arrivé d'écrire un poème d'après le Jardin du Diable de Hathaway, mais un peu lointainement par rapport au film lui-même. Du coup, alors la narration m'échappe. Alors je demande à ma femme après, mais qu'est-ce qui s'est passé là depuis 10 minutes? Bien, parce qu'elle se souvient mieux des histoires. Et récemment, dans un recueil qui n'est pas encore paru, j'ai écrit un poème d'après le salon de musique de Satya Jitray, que je prononce à notre façon, qui est un film qui me hante d'une certaine façon et qui hantait aussi, j'en profite pour le dire au passage, Louis-René Desforêts. C'est un film dont j'ai souvent parlé avec lui. Et puis la musique qui était si importante pour lui. Et donc, voilà, où La Nuit du Chasseur m'a inspiré un poème aussi, de façon assez précise. Et le cinéma joue un grand rôle parce que je suis cinéphile d'abord, et ensuite parce que on est dans le noir, on retrouve la caméra obscure là, mais un noir peuplé d'images. Ouais. Et donc pour moi c'est très 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 important. Ouais. Enfin, je me suis aperçu que un grand nombre de fois le cinéma m'a inspiré, au point que j'ai d'ailleurs le dernier livre de poèmes que j'ai publié. Une minute de publicité. est intitulé Promesse, Tour et Prestige, et ce titre m'est venu en voyant le film Le Prestige. Voilà. Ce sont les trois moments d'un tour de magie. Et ça a structuré le livre à partir de là. Voilà. Mais c'est né au cinéma. Au point que d'ailleurs, j'ai plus vu grand-chose du film à partir du moment où ça m'est venu, ça. Mais depuis, je l'ai revu.
Mais c'est intéressant que vous parliez d'attention flottante. De toute façon, vous nous donnez les éléments de vous-même, puisque les images, j'allais dire du rêve, les images du film, c'est aussi pour ça qu'on oublie si rapidement les films, les images d'un film et puis l'état de semi-torpeur dans lequel on se trouve, tout ça a beaucoup à voir. Ah oui, tout ça a beaucoup à voir avec l'état hallucinatoire,
bien sûr,
dans lequel se trouve le rêveur. Et
tout à fait.
Et il me semble que l'état dans lequel on peut se trouver pour écrire.
Oui, mais il y a des suggestions transversales. Quand même. C'est ça qui est aussi intéressant. C'est vrai des films, je dirais. C'est vrai aussi de beaucoup de livres. Enfin, si j'en crois mon expérience, beaucoup de livres qu'on a lus et dont on croit se rappeler un passage qui nous a fortement marqué. Et puis quelques mois, même quelques semaines, quelques jours, parfois après, on recherche le passage, on ne le retrouve jamais. Pour une raison simple, c'est que ce passage, on l'a inventé, on l'a rêvé, et au fond, ça fait dire que les livres sont aussi, avantage sur Internet, sont aussi des machines à rêver en ce sens-là. Non pas au sens où elles portent à la rêvasserie, mais aussi où les livres nous permettent d'inventer les livres, d'inventer des livres aussi à partir de ça. Bon, et c'est vrai de l'expérience cinématographique pour Gérard, moi non, je n'ai pas cette expérience du tout. C'est vrai aussi pour la lecture. Et l'intérêt, je pense, dans toutes ces expériences-là, c'est la concurrence entre des sémiologies très, très différentes et la sorte de résistance. Ça me rappelle Glenn Gould qui, pour travailler l'opus 106 de Beethoven, mettait la radio à fond. Expérience de résistance formidable. Bon, je ne conseille pas tout le monde de faire ça, mais et il l'explique très bien. Il dit, oui, parce que j'avais à lutter contre la radio.
Quand j'étais jeune...
Tu travaillais le plus
sur 6. Je veux dire plus jeune. Mais non, je n'étais pas Glenn Gould. Mais il m'arrivait d'écrire avec Europe 1.
Voilà. Oui, oui, c'est le même genre de choses.
Oui. Oui. Parce que, oui, c'est un rideau. Oui.
Bah, bien sûr.
Bien sûr. Qu'on doit déchirer de temps en temps. Oui, oui. À propos du cinéma, je voudrais juste ajouter une précision. Vous rapprochez le film, très justement, du monde du rêve ou de ce qui est hallucinatoire dans le film. Simplement, j'ajouterais que la différence, parce que les différences comptent autant que les analogies, c'est pour ça que j'aime tant Francis Ponge. La différence avec le rêve, c'est que le film est un rêve maîtrisé. C'est-à-dire qu'il est construit, il n'est pas arbitraire, abracadabrant, ça ne va pas dans tous les sens, il y a un montage, enfin à peu près cohérent quand même. Bon, ça dépend des films, enfin en gros, il y a une cohérence. Et donc, je dirais que c'est un rêve maîtrisé et un rêve dont on pourrait se souvenir de chaque image, ce qui n'est pas le cas de nos propres rêves. Voyez, je dis ça parce que le rapprochement peut être... là aussi un petit peu trop facile, je ne le dis pas pour vous, hein, c'est pas ça du tout, mais à travers l'expérience des surréalistes et de ce qu'il nous a raconté, ah ben, il suffit de rêver pour être poète. Non, ce n'est pas si simple. Et le rêve, au sens propre du terme, ne m'a à peu près rien apporté, quant à moi. Oui. Parce que, justement, je le trouve presque indicible, et d'ailleurs, dans les livres où je trouve des récits de rêve, je suis souvent déçu. Je trouve que le rêve, ça ne regarde pratiquement que soi. C'est très, très difficile à communiquer, ou peut-être un analyste. Et même chez Proust, j'avais remarqué que dans La recherche du temps perdu, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Sauf que le livre entier, la recherche entière, nous met dans un état de rêverie, de rêve. Oui, mais ça, c'est beaucoup plus important.
Oui, tout à fait.
Et donc, le récit précis, limité de tel ou de tel rêve, c'est souvent très décevant.
Mais oui, quand je parlais du cinéma, je ne parlais pas du déroulement des images, mais plutôt de l'état.
Oui, de l'état.
De l'état en condition hallucinatoire dans laquelle on est. Alors c'est drôle que vous parliez des récits de rêve, parce que Christian, lui, travaille plutôt avec l'insomnie, avec justement ce qui fait que, et je trouve ça très intéressant, chez l'un et chez l'autre, votre rapport aux images. Finalement, en vous écoutant parler, votre rapport aux images, et je pense chez Christian au fait de regarder, j'allais dire la musique de Patinir, mais je crois que vous parlez du bruit de fond du monde pour le bleu de Patinir, regarder un tableau et être attentif à des emblèmes, y compris aux hiéroglyphes que des chiffres Champollion. Il y a bien une espèce de stupeur native devant les images qui vous requièrent l'un et l'autre.
Je pense qu'il y a deux sortes d'images. Il y a celles qui me ramènent, enfin pour mon compte, à un monde d'avant l'écriture.
Voilà.
Hein, oui. Un monde qui se dirait par image, enfin, comme dans les églises romanes où le livre est sur les murs. Bon. Mais il y a d'autres exemples et dans d'autres cultures. Et puis, il y a des images plus élaborées qui sont celles de l'art, au fond. Voilà. Mmh. Et celle-là qui appelle à être interprétée, déchiffrée, et qui sont d'abord du pur plaisir aussi. C'est pourquoi, en effet, pour ce qui me concerne, l'univers visuel, la peinture, le cinéma, etc., la photographie, ont plus d'importance que la musique. Parce que je ne suis pas doué de ce côté-là, d'abord. Ensuite, je peux être mélomane comme tout le monde, bien sûr. Je ne suis pas tout à fait ignorant et j'ai une passion presque dévorante et exclusive pour Schubert. Donc, je n'ignore pas tout de la musique. Mais c'est mon plaisir, alors pour la musique, d'être en dehors, justement. Alors qu'avec les images, je me sens plus dedans. Ça, ce serait le contraire. Enfin, le contraire.
Oui, j'ai du mal. Il est certain que le monde est partagé entre les visuels et les auditifs. Il y a une troisième catégorie, c'est ceux qui ne sont ni l'un ni l'autre, mais là, c'est sans espoir.
Puis il y a le regard du sourd.
Oui, c'est ça. Enfin, en gros, on peut dire quand même que, oui, on rencontre chez les êtres une affinité auditive et puis une affinité visuelle.
Alors ma difficulté, c'est que devant les tableaux, me situant plutôt dans la catégorie des auditifs, j'ai tendance à écouter les tableaux, ce qui est évidemment une position assez perverse vis-à-vis de la peinture. Et je dois dire qu'il y a des tableaux qui ne me répondent rien du tout. Alors ce genre d'interrogation qui reste vraiment muet. Et puis il y en a d'autres qui ont alors des paroles débordantes quand même. Ça c'est de façon inattendue d'ailleurs, bon, des morceaux de couleurs, des fragments de ceci ou de cela. Et bon, ça c'est des déclenchements qui sont assez sidérants. Oui. Voilà tout ce que j'ai à dire là-dessus.
Allons-nous marquer un terme à votre conversation extrêmement riche. Merci beaucoup. Je ne voudrais pas vous priver. Non, il y a du mouvement. Bon, voilà. Alors, on fera une pause après que Patrick Échichian aura questionné Alain Aubé et Martin Rueff. Voilà, si vous voulez prendre.